Bonjour Adrien Quatennens.
Bonjour.
Le mouvement de grève de la SNCF entre donc aujourd'hui dans sa deuxième journée. La mobilisation hier a été très forte et donc les perturbations très importantes pour les usagers. Les expressions journée noire, prise d'otage, cauchemar, calvaire ont été abondamment employées dans les journaux, les radios, les télés. Qu'est-ce que vous inspire tout d'abord ce vocabulaire ?
Alors d'abord, concernant la grève, dire que de toute façon, effectivement, elle génère des difficultés pour tout le monde. C'est le fait de la grève, en réalité. Par contre, je ne supporte pas l'idée qu'on utilise, par exemple, des termes comme prise d'otage, d'autant plus dans le contexte que nous vivons, pour parler de ce qui se passe. La grève, oui, c'est difficile. Et ça fait parler, effectivement. Il y a à la fois les difficultés pour les usagers, mais le dire quand même, on ne fait pas la grève par plaisir. Celles et ceux qui sont mobilisés, ça leur coûte des journées de salaire, et pour elles et eux, c'est aussi particulièrement difficile. Je veux rappeler quand même à toutes celles et ceux qui se contenteraient, mais je vois qu'il y a beaucoup d'usagers qui soutiennent le mouvement quand même, de critiquer la grève, que beaucoup des avancées sociales dans ce pays ont été obtenues par la grève. Si vous vous souvenez par exemple les congés payés, dont à peu près tout le monde dans ce pays est heureux de bénéficier, ça a été conquis grâce à la grève. Donc la grève déplaît parce qu'elle génère du mécontentement dans le quotidien, mais là en l'occurrence elle est utile. Et je veux le dire à votre micro, ce n'est pas simplement la bataille des cheminots pour eux-mêmes qui est en jeu.
On va parler des autres aspects, mais alors vous avez dit beaucoup d'usagers soutiennent le mouvement, on en entend, c'est vrai, mais la question c'est de savoir si ça va durer, si le mouvement dure et qu'il est dur dans le temps, et qu'il est dur comme il semble commencer à l'être, est-ce que ça ne va pas rapidement s'effriter ce soutien ?
Non, je pense que les racines sont solides. Ce qu'il faut dire surtout, c'est que le gouvernement essaye de mettre en scène une opposition entre les usagers et les grévistes. En réalité, qui met cette pagaille absolument indescriptible dans le pays, c'est bien Emmanuel Macron qui procède à cette réforme de la SNCF qu'il n'avait absolument pas annoncée, ni dans son programme. Que je sache, personne n'a voté pour cela. Et en réalité, il avance à marche forcée une fois de plus. Quel est son objectif réel finalement ? Parce que si on parle de fond, c'est ça qui est intéressant. Le gouvernement nous dit que son souci, c'est d'améliorer le service. C'est absolument faux. Son seul souci, c'est de passer à la photocopieuse de Bruxelles pour traduire les directives européennes qui doivent de toute façon aboutir à l'ouverture à la concurrence. Voyez, monsieur, nous avions affaire, en fait, à une bande d'idéologues, tout droit venus de la Commission européenne, et quel que soit le secteur sur lequel ils s'emploient, que ce soit l'énergie, le rail, ou quoi que ce soit, vous vendriez demain des bananes, que ce serait pareil, ils demanderaient à tout bout de champ qu'on ouvre à la concurrence. Le projet de loi du gouvernement sur le rail, c'est 86 fois le mot concurrence, pas un seul fois le mot écologie. Que fait Emmanuel Macron quand il met fin, petit à petit, au statut des cheminots ? Il offre là, en fait, un gage aux acteurs privés qui demain viendront se positionner sur le marché, marché juteux, il faut le dire par ailleurs, et qui n'auront plus à s'encombrer d'un statut qui, par ailleurs, est justifié aussi par la pénibilité. De la même manière, la dette de la SNCF, qui sert d'argument d'autorité,
une cinquantaine de milliards d'euros,
c'est une dette qui est d'abord un héritage historique qui date d'avant même la création de la SNCF, qui est une, au moment où on a construit la SNCF, justement, il y avait une dette historique des opérateurs privés qu'on a alors rassemblés. Et puis, je veux le dire, c'est pas la SNCF qui est responsable de sa dette, hein, c'est son actionnaire principal, l'État, et en l'occurrence les choix qu'il a fait, en investissant d'abord et avant tout dans les lignes à grande vitesse, et surtout cette dette, je veux quand même le dire, est aussi creusée, et elle continue d'être creusée. Je prendrai un exemple, la ligne Bordeaux-Tours, qui coûte à peu près 7,5 milliards d'infrastructures. La puissance publique a mis à peu près 5 milliards, et un opérateur privé, une filiale de Vinci, l'ISEA, a mis 2,5 milliards. Donc on voit bien que c'est la puissance publique qui a avant tout payé cette ligne.
Deux tiers, un tiers, en gros.
Exactement. Et ce qu'il en résulte, c'est que pendant les 44 prochaines années, les péages vont être intégralement au bénéfice de l'opérateur privé. Par conséquent, cette ligne, voyez-vous, est en déficit structurel. Ça coûte 250 millions à la SNCF par an. Donc on voit bien que tout ça sont des arguments finalement fallacieux qui visent une chose, à essayer de faire porter la responsabilité aux cheminots, à la SNCF, à diviser les Français entre eux pour regarder qui a le meilleur avantage que l'autre, alors que finalement on a juste affaire effectivement à une traduction des directives européennes. Pour résumer, pour faire l'Europe du fric, on est en train de défaire la France. Et moi, je pense qu'à cette heure, avec la SNCF, on pourrait faire tout autre chose de bien plus intelligent.
Alors, on parle beaucoup de la SNCF, mais et vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a du mécontentement, voire de la colère, qui s'exprime dans d'autres secteurs, dans les universités, dans les EHPAD, les établissements qui accueillent les personnes âgées dépendantes, dans les hôpitaux, dans la fonction publique. Pour vous, il faudrait que ces mouvements se rejoignent dans une sorte de vaste front social, mais pour l'instant, ça ne s'est pas encore produit. Qu'est-ce qu'il manque, d'après vous ?
C'est ce qui est en train train de se passer en tous les cas, parce que je pense que ce qui nous a manqué pour y parvenir, d'abord et avant tout, c'est du temps, sans doute. Compte tenu de l'habileté d'Emmanuel Macron et de son accession au pouvoir, peut-être, oui, aura-t-il fallu 10 à 12 mois pour que les gens puissent traduire politiquement quelle était son action, finalement. On l'a vu au moment de la séquence ordonnance, il venait d'arriver au pouvoir, il y avait de l'attentisme, parce que les gens se disaient, effectivement, il nous promettait la révolution, il renouvelle le personnel politique, alors laissons-lui le bénéfice du doute. Je pense qu'aujourd'hui, près de 12 mois après, les gens ont compris. Ils ont compris qu'on s'attaquait au code du travail, qu'on s'attaquait à l'université en créant la sélection à l'université, c'est-à-dire en gros adapter le nombre d'étudiants au nombre de places alors qu'il s'agirait en réalité de faire tout l'inverse. Les gens voient ce qui se passe au niveau du pouvoir d'achat, la redistribution et la préférence faite pour les riches. Bref, maintenant, en 10 mois, la signature de ce que fait ce gouvernement est très claire. Par conséquent, moi j'observe partout où je me déplace, privé comme public d'ailleurs, que le mécontentement non seulement s'étend, mais qu'en plus les personnes concernées mettent des mots de plus en plus communs, un diagnostic de plus en plus précis sur ce qui est en cause. Finalement, Emmanuel Macron, il a une mission très claire. Et il a pour lui sa cohérence idéologique. Il achève un processus qui a démarré bien avant lui. Il est en train d'essayer de pousser le curseur du libéralisme au plus haut niveau en France. Et par ailleurs, on le voit, comme dans d'autres pays où ça s'est fait. Et les Français le remarquent. Partout où on pousse le curseur du libéralisme à ce point, on a en parallèle une forme d'autoritarisme de la part du pouvoir qui est en place. Et l'exercice du pouvoir par Emmanuel Macron exacerbe à plein régime les travers de la Ve République. Ça, c'est très clair.
Sur la mobilisation, est-ce que vous attendez autre chose des syndicats que lors du mouvement contre la réforme du Code du travail que Jean-Luc Mélenchon avait assez vivement critiqué à l'époque, hein. Il avait estimé que ça avait été un peu mou du genou, pour dire les choses familièrement.
Nous avons une certitude, c'est qu'aujourd'hui, il y a sur la table tous les ingrédients pour engager non seulement un rapport de force victorieux, mais qui permette aussi de faire cette démonstration que on ne s'amuse pas dans la contestation. C'est d'abord une frustration de voir tout ce qu'on pourrait faire à la place de ce gouvernement si on était aux manettes. Donc je pense qu'il y a une bataille de l'opinion à mener, de faire cette démonstration que ce n'est pas une bataille de quelques secteurs pour eux, mais bien une bataille d'intérêt général, et que si on laisse faire le gouvernement, il y aura un effet de seuil de franchi. Et donc ce dont nous avons besoin, à mon avis, c'est de faire en sorte, y compris que celles et ceux, vous savez, qui sentent bien aujourd'hui qu'ils vont devoir passer à l'action, mais qui ne sont pas organisés, qui n'ont pas les syndicats, qui ne sont pas habitués à ces formes de mobilisation, ou même, je dois le dire, qui n'ont pas l'occasion de faire une journée de grève et de perdre le salaire qui est en conséquence, doivent pouvoir se mobiliser. C'est donc à nous toutes et tous, qui sommes finalement, à chaque fois, j'ai envie de dire, les premiers de cordée de la mobilisation, hein, syndicalistes, associatifs, politiques, de créer les conditions, de faire en sorte que toutes ces personnes puissent nous rejoindre. Et c'est la raison pour laquelle nous souhaiterions effectivement qu'une initiative soit prise qui permette d'aller vers une grande marche nationale, un week-end, pour permettre effectivement au plus grand nombre de venir, sur un mot d'ordre suffisamment ample pour que tout le monde se retrouve, que ce soit les retraités, les personnels des EHPAD ou les cheminots, et puis celles et ceux qui aujourd'hui sentent bien que la manière dont on organise le travail dans ce pays les concerne aussi. Vous savez, c'est pas juste une affaire de quelques secteurs, c'est bien l'affaire de tous.
Olivier Besancenot est de retour, on le voit revenir à l'occasion de cette mobilisation sociale. Il est très populaire, Olivier Besancenot, à la gauche de la gauche. Est-ce que vous pensez qu'il a un rôle particulier à jouer, lui aussi ?
Mais je pense que dans cette bataille et dans les batailles qui s'ouvrent dans le mouvement social, nous avons toutes et tous un rôle à jouer. Olivier Besancenot, quand il est présent sur les plateaux de télé ou dans les luttes, il fait avec nous un travail critique du gouvernement. Et de ce point de vue, c'est bien. Clairement, vous savez, dans la période, on a besoin d'avoir les coudes serrés.
Quel est l'avenir, selon vous, de votre mouvement, la France Insoumise ? Est-ce que ça n'est pas le mouvement d'un instant, le mouvement d'un moment, celui de la présidentielle de 2017, marqué indéniablement par par Jean-Luc Mélenchon?
Non, alors vous pourriez vous en rendre compte rapidement, simplement en observant l'activité du mouvement à ce jour. Sachez que nous sommes, je crois, la seule force politique aussi présente à l'action sur le terrain, dans un moment qui n'est pas un moment de campagne électorale. Moi, chaque jour, je reçois sur les bancs de l'Assemblée nationale des photos venues de tout le pays, des actions que font encore les militants du mouvement, un mouvement qui essaye de s'élargir constamment et qui est à l'action aussi pour être utile tout de suite. C'est-à-dire comment créer un mouvement qui fait en sorte que nous puissions avoir des actions utiles à la population, d'auto-organisation, sans en passer nécessairement par l'arrivée des élections. Donc là, on a des campagnes campagnes, de grandes campagnes thématiques, notamment sur l'éradication de la pauvreté, l'évasion fiscale. Ça participe d'un grand mouvement d'éducation populaire qu'on veut non seulement le plus large possible et donc nécessairement le plus souple. Vous savez, à la France Insoumise, il y avait des gens qui sont militants depuis 20 ans, d'autres qui le sont depuis 20 minutes. Vous avez celles et ceux qui simplement ont signé pour être sur une newsletter, et puis les acharnés qui tous les soirs sont sur le terrain. Donc c'est quelque chose de très ample et souple et de très ouvert. On peut par ailleurs être membre d'un parti politique et membre de la France Insoumise. Nous voulons faire un grand mouvement populaire qui puisse apporter l'alternative crédible à Macron et son monde.
Merci Adrien Catanas.
Bonne journée. Merci à vous.